Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Turbine diffusée sur Radio Pulse et la Station B. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, nous allons parler de santé mentale. Et je suis comme d'habitude accompagnée de mes chers chroniqueurs Alain, Pierre, Raphaël et Thomas à la régie. Comment allez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, ça va très très bien.
De quoi vous allez nous parler ?
Moi, je vais vous parler en première partie des musiques qui nous font du bien et en deuxième partie des musiques que l'on écoute quand on n'est pas bien.
Super.
Coucou Analou, bah moi je vais te parler de, comme d'habitude, de l'agenda culturel et puis un petit clin d'œil à une émission passée que tu as animée pour finir.
On a hâte d'entendre ça. Et David ?
Bonjour. Moi je vais vous parler aussi de santé mentale à ma façon, on va dire.
D'accord, ok, bah, super. Hâte de découvrir ta nouvelle chronique. Et Raphaël ?
Moi les clés de lecture pour prolonger la discussion avec nos invités.
Eh bien super, merci beaucoup. Je sens qu'on a une belle émission en vue. Et oui, un sujet qui, malgré le temps, a pris de plus en plus de place dans notre société, qui fonctionne à toute vitesse d'ailleurs, cette société, dans laquelle on n'a même plus le temps de s'observer. Et grâce ou à cause de cette crise du Covid, le sujet s'est retrouvé sur le devant de la scène. Burnout, bore-out et j'en passe, ce sont donc des mots et des mots MAUX que l'on entend de plus en plus souvent, ce qui en fait un sujet qui me paraît complètement d'actualité. Et donc c'est pour ça que nous allons accueillir deux invités aujourd'hui, donc Florence Daven qui est psychologue libérale à Caen et qui propose des thérapies dédiées aux adultes, aux adolescents, couples et familles, et vous enseignez également la psychologie clinique à l'université de Caen. Et nous sommes également avec Pascal Crété, directeur du foyer Léon Richer, mais aussi président de l'association Santé Mentale France Normandie, anciennement Croix Marine. Jingle. Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien.
Ça va bien ?
Plutôt bien.
Ok, super.
Content d'être là.
Eh bien super, c'est chouette. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement la différence entre vos approches ? Parce que du coup Florence, vous êtes psychologue et Pascal, vous êtes psychiatre, c'est ça ?
Oui.
Voilà.
Alors, le psychologue, c'est un professionnel qui essaie de comprendre l'esprit humain, qui dispose pour ça de théories, qui essaie aussi d'aider les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, des difficultés psychiques. Donc, il y a un versant qui peut être d'évaluation, un versant qui peut être de psychothérapie, mais ce n'est pas un médecin. Donc, voilà. Il n'y a pas de traitement médicamenteux possible et c'est une approche qui n'est pas forcément tournée vers la pathologie.
Voilà. D'accord, ok. Et vous, Pascal ?
Alors justement, pour faire contrepoint par rapport à ce que vient de dire Florence, c'est vrai que le psychiatre, lui, est médecin, donc il est formé, on va dire, à l'exercice et à la prise en charge de ce qu'on appelle les maladies mentales. Mais pour rejoindre ce que dit Florence, c'est vrai qu'on a aussi tout un champ de notre pratique qui est beaucoup plus dans la relation et notamment dans le champ des psychothérapies qu'on a en commun avec les collègues psychologues, c'est-à-dire que pour accompagner les personnes en souffrance, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, relationnellement, on va faire beaucoup plus référence à nos supports de psychothérapie qu'aux traitements médicamenteux ou à des prises en charge médicales qui sont réservées à des pathologies beaucoup plus lourdes. Mmh. Voilà, c'est un petit peu la différence.
D'accord.
Donc on a quand même un champ commun.
Oui, tout à fait.
Très bien.
Et complémentaire.
Ben, merci de nous avoir éclairés. Alors du coup, pour commencer, tout simplement, en fait, c'est quoi pour vous la santé mentale, si on pouvait le définir ?
Vaste question. Pour moi, c'est d'abord une question d'équilibre personnel. et je dis bien personnel, c'est-à-dire que c'est toujours singulier. Cet équilibre, puisqu'il est le fruit d'une histoire, d'une expérience, de qualité aussi, et de failles, parce qu'on en a tous, hein, et qui sont soumises finalement au réel hein, et à ce qu'on peut traverser comme épreuve dans la vie, il y en a toujours. Et ces circonstances, mais aussi parfois des choses qui évoluent à bas bruit à l'intérieur de soi, peuvent amener à fragiliser cet équilibre et à le menacer.
D'accord, très bien.
Oui, je partage complètement le point de vue de Florence sur cette notion d'équilibre. Alors c'est vrai que le terme de santé mentale, il renvoie à la notion de santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire un espèce d'état... comme ça, un petit peu de silence, on va dire, des organes, mais là, en l'occurrence, peut-être de la vie psychique, qui ne doit pas faire trop de bruit et qui doit s'accompagner d'un sentiment de bien-être. Je ne suis pas sûr que dans la vie quotidienne et dans notre vie psychique au quotidien, ce silence, cet état stable, ce bien-être caractérise nos émotions et ce que l'on vit. Quand on regarde bien notre humeur au quotidien, elle bouge en permanence. Alors, pour moi, je pense que ce à quoi on a affaire, c'est beaucoup plus à cette fragilisation de cet équilibre dont parle Florent, c'est-à-dire notre capacité d'adaptation qui, dans certains moments, vient à se fragiliser. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'adaptation qui permet que face à un événement réel, comme là ce qu'on a vécu avec le Covid, on essaye de s'adapter. Lorsqu'on a un événement douloureux dans la vie, un deuil, eh bien on vit une expérience de perte douloureuse avec de la souffrance qui n'est pas pathologique, qui est une souffrance normale et qu'il faut traverser, et qui pour autant va mobiliser la plasticité, si je puis dire, de notre psychisme et notre capacité à nous adapter, à changer, à évoluer. Lorsqu'on perd cette capacité, eh bien là, en effet, certainement qu'on rentre dans des problématiques plus lourdes, voire des pathologies, parce qu'on n'a plus cette souplesse et cette capacité d'adaptation. Je pense notamment dans le champ, par exemple, du travail et de ces problématiques qu'on rencontre aujourd'hui devant les organisations du travail où des gens sont en souffrance et décompensent dans les fameux burn-out dont on parle.
Okay. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, personne n'a une capacité d'adaptation infinie. Tout être humain a ses limites, qui, là encore, sont fixées par sa propre évolution et ses capacités personnelles. Et donc, on est plus ou moins capable d'encaisser un certain nombre d'épreuves, mais on a tous, on connaît tous, en fait, des difficultés psychiques. Et la vie, c'est aussi les résoudre.
Ok.
Seul ou aidé.
Très bien, merci. Et du coup, on sait que j'ai entendu pas mal ce chiffre-là, qu'une personne sur quatre est ou sera atteinte de troubles mentaux. Ouais. Est-ce que du coup, il y a un continuum entre le normal et le pathologique ? À quel moment des symptômes peuvent devenir une pathologie ? À quel moment on tombe dans quelque chose qui doit être diagnostiqué, en fait ? Quels sont les signes ?
D'une certaine manière, on vient déjà de répondre un peu à votre question, oui. Puisque cette notion d'équilibre, elle établit de fait le continuum entre ce qu'on appelle le normal, entre plein de guillemets, hein, oui. Et le pathologique, oui. Avec plein de guillemets aussi. Oui. Puisqu'au fond, on entre en effet dans la pathologie quand on perd la souplesse et la capacité à encaisser, à réagir et à intégrer les événements ou le contexte de son existence. Alors c'est vrai que ça peut se voir à titre personnel avec des épreuves familiales, individuelles, etc., mais aussi dans le contexte social, au travail, la perte de lien, le chômage, enfin voilà. Mmh. Tout ça, ce sont des épreuves qui peuvent mettre à mal l'individu dans sa capacité d'assumer son existence, en fait.
Okay. Et votre question, elle est importante parce que vous voyez bien qu'en la formulant, on entend derrière qu'il y a le regard de l'autre et en l'occurrence de la société. Mmh. À quel niveau, à quel seuil notre société positionne le normal et le pathologique ? Mmh. Est-ce qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, un deuil est considéré comme une expérience pathologique ? Moi, je pense que non. Et au contraire, il faut accompagner relationnellement les personnes pendant la phase de la perte et du deuil. Mais on pourrait imaginer qu'en effet, la société, demain, décide, et on va peut-être en parler, à médicaliser, par exemple, toute forme de souffrance psychique. la souffrance au travail, parce qu'il y a de la souffrance dans tout travail. Mmh. Même là, à la radio, je pense que vous avez des jours où vous traversez des moments de souffrance. C'est mais bon, normal. Vous les travaillez ensemble et institutionnellement, je dirais que vous en faites quelque chose qui est peut-être d'ailleurs sujet à création ensuite. Voilà, donc c'est en effet cette perte de nos capacités d'adaptation, de souplesse, qui sont encore une fois, comme disait Florence, totalement individuelles. On ne peut pas préjuger au préalable que telle personne va réagir de telle manière. Et c'est en face ce que pose comme exigence le regard de la société.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours un refus d'observer sa souffrance psychique aujourd'hui, ou une peur d'aller consulter justement ?
Déjà, il y a une différence entre observer sa souffrance psychique, ce qui déjà pose problème à mon avis, parce que s'observer c'est une chose, s'écouter c'en est une autre. C'est vraiment deux choses différentes. En psychologie, on est plutôt sur le versant de l'écoute. Et c'est-à-dire qu'il y a justement cette dimension de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut se sentir, et c'est peut-être là le seuil où il faut faire appel à quelqu'un, un professionnel, on peut se sentir démuni, impuissant, face à sa propre souffrance que l'on sent, mais dont on ne peut rien faire. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut s'en débarrasser. Je dis bien qu'on ne peut rien en faire. Mmh. Et c'est ça le signe.
On ne se sent pas capable tout seul de régler le problème.
Mais ce n'est pas seulement le régler. Mmh. C'est juste le prendre en compte et même le comprendre. Mmh. On souffre, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas de quoi. On est écrasé par cette souffrance. Là, à ce moment-là, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'ennui, ça peut être une désespérance, enfin, etc., une impuissance. À ce moment-là, il faut faire appel à quelqu'un justement pour sortir de... Le problème de la souffrance psychique, c'est elle configure en même temps le monde dans lequel on vit. Donc, on ne peut pas en sortir seul puisqu'elle forme notre monde. Et donc, quand ce monde devient trop écrasant, il faut justement faire appel à quelqu'un d'autre pour l'objectiver, pour le partager et pour essayer de le comprendre mieux grâce à l'écoute de l'autre.
Peut-être pour compléter, oui, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, enfin ça c'est peut-être plus le médecin qui parle là, on a quand même une tendance dans notre société à vouloir un petit peu tout résoudre par des traitements, par la médecine ou des méthodes de coach, de rééducation, de choses comme ça. Et qu'il faut quand même... Ça fait partie de la nature humaine que de vivre avec aussi ces moments de souffrance, qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours des moments de douleur, je différencierais douleur et souffrance psychique, et du besoin certainement d'être accompagné, comme on l'a toujours vu d'ailleurs dans les sociétés antérieures, où les gens ne restaient pas seuls avec cette souffrance, mais où le socius accompagnait ça. C'est vrai que certainement qu'une des tendances aujourd'hui de notre société est de rabattre ça sur la question... du bien-être, du médical, de la médecine. Et là, il y a quelque chose, en effet, sur lequel je pense qu'on rate un petit peu de traiter la question, parce que c'est d'abord une question profondément humaine et relationnelle dont il est question.
Vous pensez que c'est une forme de peur, justement, par rapport à ça ?
C'est une forme de rationalisation, certainement, de nos sociétés, qui a besoin aujourd'hui, on l'a vécu là, par exemple, dans les expériences de mort et d'angoisse que la Covid nous a fait vivre, et à juste titre, hein, parce que c'était quand même pas une expérience... qui était insignifiante, ce qui s'est passé mondialement, eh bien, on voit bien, en effet, que tous les protocoles dont on a été inondés les uns les autres dans les établissements, dans la vie de tous les jours, viennent essayer de tamponner un petit peu ces questions-là. On a aujourd'hui, je pense, beaucoup de mal à accepter de vivre avec une part d'angoisse qui est totalement indispensable pour exister. On différenciera là aussi, je pense, en tant que clinicien, l'angoisse existentielle normale pour vivre et les angoisses pathologiques qui, elles, doivent être en effet traitées et accompagnées. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre société a un petit peu tendance à avoir du mal à accueillir et à continuer d'accompagner cette problématique-là, qui est la problématique de l'homme, tout simplement.
Et vous amenez très bien le sujet, c'était ma question d'après, c'était que, est-ce que vous pensez justement que cette écoute, en plus, comme vous disiez, de son état psychique, ça devrait être davantage présent, par exemple, au sein de l'éducation plus jeune ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment présent aujourd'hui ?
En tout cas, il m'arrive de rencontrer assez régulièrement des parents qui ne savent pas forcément comment apprendre leurs enfants à rencontrer leurs émotions. C'est quelque chose qui se fait en fait des tout petits, quand le bébé pleure et que ses parents traduisent ah ben, tu as mal ou tu as chaud ou tu as faim, etc. C'est une manière d'identifier et de lire pour lui-même les émotions qu'il ne peut pas encore connaître forcément. Et donc c'est ce qui se poursuit en fait tout au cours de l'enfance, de l'adolescence aussi, avec des évolutions majeures, mais qui c'est extrêmement important. Alors est-ce que c'est de l'éducation? Je sais pas, parce que il y a peut-être un côté trop dirigiste dans
quand
l'éducation.
Quand je dis éducation, j'entendais plus dans le sens dans l'éducation par exemple scolaire ou en tout cas externe au cercle familial peut-être.
Il me semble que au sein de l'école, il y a un apprentissage de la sociabilité de toute façon. Mmh. Donc effectivement, à ce titre-là, les relations entre pairs, les échanges, la collaboration ou son absence, enfin tout ça, toutes choses qui vont après aussi donner dans les sphères de travail la capacité à rendre service, à prêter son savoir, etc. Et à être en société. Évidemment, c'est important la sphère scolaire, mais il me semble que l'éducation émotionnelle, même si je n'aime pas beaucoup le mot éducation, l'apprentissage, l'initiation en tout cas, qui est le début de se connaître hein, en fait. C'est par les émotions hein, qu'on commence à se connaître. C'est plutôt de la sphère familiale, de la sphère relationnelle, enfin des proches, de ceux avec qui on est tout le temps en contact et avec qui on a des liens affectifs forts.
Très bien.
Oui, peut-être pour compléter, c'est vrai qu'aujourd'hui, la sensibilisation à la vie psychique, c'est quelque chose qui manque, me semble-t-il, un petit peu. Vous parliez de l'école, mais aussi dans le monde du travail, et puis j'ai envie de dire presque dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de savoir qu'en effet, il y a notre pensée consciente, notre raison, nos logiques formelles qui fonctionnent et qu'on utilise au quotidien en permanence, et puis que en arrière-plan, il y a notre vie psychique, parce qu'on ne s'arrête pas de penser, de rêver, de ressentir des émotions, par exemple, lorsque l'on dort. On sait bien que la nuit, pendant le sommeil, il y a une activité psychique différente de l'activité diurne qui continue. Et que certainement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on manque un petit peu, je dirais, de prise en considération de cette vie psychique qui implique, du coup, qu'on se décale par rapport à ce que disait Florence, par rapport à ces logiques formelles. C'est-à-dire que les logiques des émotions ne sont pas forcément celles de la pensée consciente et rationnelle. Mmh. Hein, je pense donc je suis. Au niveau de l'inconscient, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on est obligé de faire avec, à découvrir d'autres logiques, qui sont souvent des logiques même des fois totalement paradoxales, contradictoires, mais qui vont régir d'une certaine manière le fonctionnement psychique de la personne. Et bon, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à rabattre ça, je dirais, sur deux plans, plutôt qu'une troisième dimension qui manque un peu à cette lecture du sujet, que ce soit l'enfant à l'école, ou l'adulte au travail, ou tout à chacun dans sa vie quotidienne, quoi.
Okay. On est dans une société qui valorise la maîtrise de soi et du monde, qui accepte très peu l'incertitude. Mmh. Or, voilà, ça, ce sont des mots qui renvoient vraiment à la vie psychique. La vie psychique, elle est ouverte, elle est labile, elle n'est pas, comment dire, c'est pas un chemin tout tracé, hein, c'est parce qu'elle répond à des forces. Pascal a parlé d'inconscient, donc on travaille avec la même hypothèse finalement de départ, et c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, hein, c'est quelque chose pour partie qu'on subit et qu'on doit apprendre à connaître, justement parce que c'est plus puissant que nous en fait. Enfin, que notre conscience, en tout cas.
Merci beaucoup. Et on va se faire une petite pause musicale, justement, avant de poursuivre cette interview avec Pierre. Ça va toujours, Pierre ?
Et ça va toujours. Et aujourd'hui, je suis de super bonne humeur, super. Car il fait beau. Je suis réuni avec de super chroniqueurs, de super invités également. Et surtout, en ce moment, je ne fais que écouter des chansons qui nous donnent envie de danser, chanter, nous donne la pêche et le sourire le matin.
C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre.
Trop bien. Ouais. Et je me suis posé une question. Comment la musique influe-t-elle sur notre cerveau ? Pourquoi certaines musiques nous rendent joyeux ? Eh bien, il y a une étude qui a été menée par le docteur Jacob Jolige, un chercheur en neurosciences à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Ce dernier a déterminé que ce n'était pas simplement le type de musique qui nous mettait de bonne humeur en fonction de nos goûts musicaux, mais bien certains facteurs bien précis. Trois plus précisément, un tempo rapide, donc 150 battements par minute, l'utilisation d'une gamme de notes en mode majeur, et enfin les paroles qui doivent être positives. Et du coup, je vous ai fait un petit top 5 de ces musiques qui nous donnent un bon coup de fouet, de bonnes ondes, et vraiment, chez vous, mettez le volume à fond. Alors le premier, je vous ai sélectionné Billy Joel avec Uptown Girl. Et pour le deuxième, alors Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Je vois déjà pas mal de sourires sur les visages. On continue avec All Right de Supergrass. Allez, l'avant-dernier, un peu plus récent, I Love to Love de Bon Entendeur sur un sample original de Tina Charles. Et pour terminer en beauté sur la musique qui, selon l'étude du docteur Jacob Jolige, arrive en top des musiques qui donnent de la bonne humeur, je veux voir tout le monde dans le studio les bras en l'air. Good time, having a good time. I'm a shooting star, leaping through the sky like a giant.
Merci Pierre pour ta rubrique et du coup vous écoutez toujours Bonjour Turbine et nous sommes toujours avec nos invités Florence Daven, psychologue, et Pascal Crété, psychiatre. On va continuer cette interview. Du coup je vais vous parler d'une citation qu'on entend un petit peu souvent, c'est ça va peut-être vous parler aussi pas mal Pascal, c'est la psychiatrie et le parent pauvre de la médecine. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation ?
Alors c'est certain qu'aujourd'hui, la psychiatrie n'occupe pas, et on l'a vu dernièrement au travers de la campagne présidentielle, n'occupe pas une place importante, j'ai envie de dire presque la santé d'une manière générale, hein, puisqu'on va pratiquement reconduire un petit peu les mesures en cours et pas réinterroger ce qui pourtant s'est acutisé avec la crise Covid, hein, on a bien vu la crise à l'hôpital, la crise dans les institutions, les pénuries actuellement de personnel dans le champ du médico-social, les crises dans les EHPAD, enfin bon, qu'est-ce que ça a révélé ? Ça a révélé que derrière ces pratiques de soins, il y a une problématique au niveau des organisations et qu'il fallait certainement reprendre cette question des organisations. Et quand je dis organisation, c'est au sens large, c'est pas que l'organisation du travail des personnels, c'est aussi les financements, c'est aussi les budgets, c'est la manière dont ils sont donnés, etc. Et que dans tout ce champ-là, tout ce dont on a parlé précédemment avec cette dimension relationnelle qui nécessite, comme le disait Florence, une certaine disponibilité à l'autre, du temps pour installer la relation, pour accueillir ce que l'autre a demandé, nous sollicite et comment élaborer avec lui une réponse. C'est certain que tout ça ne peut pas se faire comme ça, dans une réponse uniquement protocolisée, avec un temps réduit quand l'infirmière rentre dans la chambre le matin et qu'elle se dit qu'elle n'a que 2 minutes pour faire ses actes et répondre à la question que va poser la personne dans l'EHPAD ou dans le lit. Donc c'est certain qu'aujourd'hui la psychiatrie est en grand danger chez nous, ce qui est quand même très problématique parce que je pense qu'on avait en France notamment une histoire qui n'est pas non plus parfaite, mais un savoir, des pratiques, il y a des référentiels, il y a des articulations qui se sont tissées au fil des années entre toutes ces sciences humaines, on va dire, et qu'il est dommage de voir aujourd'hui cela se réduire à des pratiques très formalisées, articulées essentiellement à des questions de coûts, et dont on sait bien que de toute façon, à terme, ça aura des conséquences sur la santé publique, parce qu'on en parlera peut-être plus avec les effets de la crise Covid, par exemple, et la situation des étudiants, mais que si on ne met pas aujourd'hui les moyens en termes de santé mentale pour accompagner les gens comme on se devrait de le faire, c'est dans quelques années que ça va se ressentir.
Mmh, ouais. Et du coup, pour juste vous faire rebondir et passer à Florence, c'est vrai que du coup, il y a eu les fameuses annonces d'Emmanuel Macron en 2020 dans le domaine, justement sur les séances avec les psychologues remboursées, mais sous certaines conditions. Et vous parlez justement, Pascal, de temps et qu'effectivement, on ne décide pas forcément de la fin d'une thérapie, de la fin d'un accompagnement avec un patient.
D'une part, de la fin de la thérapie, mais aussi, il faut savoir que ce remboursement c'est 30€, 30 minutes.
Oui, c'est ça, la question du
temps. Et la question du temps, elle est cruciale, parce que le psychisme, quoi qu'on en dise, il ne répond pas à des critères de temporalité sociale. Voilà. Et donc, c'est très difficile de faire rentrer. En même temps, on peut comprendre que socialement, ce coût puisse paraître exorbitant, d'autant que les problèmes se sont largement manifestés et se sont accrus, effectivement, au fil du temps. Parce qu'il y a eu aussi des responsabilités, un délaissement de finalement de toutes ces questions complexes qui ne peuvent pas être réglées effectivement en termes de protocole, toujours dans la réduction et dans un cadre qui ne répond qu'à des besoins économiques. Ce n'est pas possible en fait. Mais on peut entendre aussi que socialement, c'est un véritable problème. Mais pour essayer de le résoudre, il faut peut-être s'y atteler ensemble, c'est-à-dire se concerter, et non pas prendre des décisions venues d'ailleurs de Dieu sait où, et qui ne prennent pas en compte la compréhension du véritable travail que nous faisons en tant que psychothérapeutes. Mmh. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Mmh. Une évaluation, effectivement, ça peut éventuellement, un bilan, ça peut se cadrer. Une psychothérapie, c'est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas être incompétent ou malhonnête que de le dire, c'est au contraire reconnaître la spécificité de l'esprit humain. Voilà.
Très bien. Et justement, du coup, la crise du Covid, elle a révélé la fragilité de ce système et de l'accès aux soins. Est-ce que vous, du coup, vous, plutôt non, je présume, mais vous pensez, vous trouvez que les moyens financiers et humains ont été mis en place pour assurer justement cet accès aux soins récemment ?
Mais à quels soins ? En fait, c'est ça la question. À quels soins ?
Je peux vous répondre par exemple sur la question des étudiants où on attendait en effet dans les centres de consultation pour étudiants où on a vu le nombre de demandes augmenter par 4 ou 5. On attendait en effet des renforts en personnel dans les structures, hein, personnel infirmier pour l'accueil, personnel des psychologues, etc. Et où en effet la réponse qui est quand même une réponse qu'on peut tout à fait valider, hein, du gouvernement, a été de mettre en place ces chèques de prise en charge à l'extérieur, alors qu'on sait bien qu'en plus, les étudiants, des fois, ont du mal à sortir de leur univers du campus pour aller consulter en libéral. Donc, encore une fois, je rejoins ce que dit Florence, il aurait fallu qu'il y ait une vraie concertation entre les professionnels qui étaient confrontés à cette recrudescence de demandes de rendez-vous et qui continuent, hein, parce que même si là, la pandémie se stabilise, les demandes continuent d'arriver. La souffrance est quand même très importante. Et en face, les moyens de les traduire, je dirais, sur un plan politique, administratif, etc., pour permettre aux gens d'accéder à ces soins.
Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions et on va tout de suite enchaîner justement sur les clés de lecture de Raphaël pour élargir un petit peu le sujet.
Et oui, aujourd'hui je vous ai apporté dans ma besace quelques recommandations de productions à voir, à écouter, à lire autour de la psychiatrie et de la santé mentale. Peut-être que nos invités auront une petite réaction d'ailleurs après, on verra.
N'hésitez pas.
Habituellement, dans mes chroniques, je me base plutôt sur des articles de presse ou des documentaires, on va y venir. Mais j'aimerais commencer par vous dire quelques mots d'une œuvre de fiction, la série En Thérapie. La saison 2 est actuellement en cours de diffusion sur Arte. Écoutons un extrait de la bande-annonce de la première saison pour se plonger dans l'ambiance.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant.
Et quelqu'un d'autre ? Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte.
Et rendu compte de quoi, là ? Je crains de ne pas vous suivre.
Vous êtes devenu mon obsession.
Je suis pas angoissé, je suis en colère.
Racontez-moi.
Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir ? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous.
On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce.
Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté.
Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille ?
En Thérapie, c'est l'adaptation d'une série israélienne, Betty Pool, par Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateurs notamment de Intouchables ou Le Sens de la Fête. Le principe est simple, chaque épisode c'est une séance dans le cabinet du docteur Philippe Dayan. On peut suivre au fil des semaines l'évolution de ses patients. Il s'agit bien sûr d'une œuvre de fiction, le quotidien de notre psychiatre, psychanalyste est quand même très mouvementé. Personnellement, je n'ai pas encore terminé la première saison, mais je vous recommande vivement. Le casting est parfait, avec notamment dans la première saison Reda Kateb, Mélanie Thierry, Pio Marmaille ou Clémence Poésie, les réalisateurs sont talentueux et chaque épisode vient démontrer un peu plus l'importance de ce qui est au cœur de la psychothérapie, de la psychanalyse, que disaient nos invités, le relationnel et mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX. On ferme la porte du cabinet du docteur Dayan, on lance un extrait de la bande-annonce du podcast que je vous recommande, La santé mentale dont vous êtes le héros, produit par Binge Audio.
Si aujourd'hui il est de moins en moins tabou de parler de sa santé mentale, elle reste pour beaucoup d'entre nous un sujet mystérieux, un territoire inconnu qu'on renâcle parfois à aller explorer.
On pourrait dire que dans l'imaginaire collectif, une des figures de la folie, c'est l'association avec le crime et le danger.
Alors enfilez votre plus belle armure et préparez-vous. Adélie Pojman-Pontet et Mathieu Thévenant ont la solution pour vous aider à affronter cette aventure à la fois si commune et si troublante. Cette solution, c'est une série documentaire baptisée « La santé mentale » dont vous êtes le héros.
Bah, le basculement, c'est d'arrêter de dire que c'est une maladie incurable déjà. Moi, je dirais même arrêter de dire que c'est une maladie, quoi.
Pourquoi c'est si compliqué d'admettre qu'on doit aller chez le psy? Comment s'y retrouver dans le labyrinthe du soin? Et si c'est pas moi qui m'aperçois que ça va pas? Comment vivre sa vie avec un trouble psy? En 4 épisodes d'une vingtaine de minutes, ce podcast est le prolongement parfait à notre émission de ce jour, avec de nombreuses interviews et témoignages de soignants, de personnes en souffrance psychique. Alors je ne pouvais pas terminer ces clés de lecture sans faire une allusion à grand format et au reportage que j'y ai publié en 2020 sur le foyer Léon Richer, foyer d'accueil médicalisé pour personnes psychotiques à Caen, d'où notre invité Pascal Crété est le médecin directeur. Cette structure a la spécificité d'apporter plus qu'un suivi médical aux jeunes adultes accompagnés, les aide à retrouver une place dans la société. Cela peut d'ailleurs passer par des projets qui semblent un peu fous, comme celui d'emmener 9 pensionnaires du foyer visiter New York, qui est raconté dans ce reportage. Donc le lien pour aller lire ça et les autres productions citées dans cette chronique seront à retrouver dans la description de l'émission sur l'audioblog.
Merci Raphaël pour avoir élargi ta chronique justement, enfin élargi le sujet avec ta chronique. Est-ce que ça vous donne envie de partager quelque chose?
Oui, enfin par rapport à En Thérapie qui en effet est un petit bijou je trouve. Le succès je pense de En Thérapie aujourd'hui tient au fait que dans l'après-coup de ce monde très austère là, qu'on a traversé, d'un seul coup cette série vient nous rappeler que la vie psychique justement existe et nous montre comme ça, là, dans ce fonctionnement du cabinet du docteur Dayan, comment il travaille, comment il accompagne, comment il entre en relation, comment il accueille, comment lui-même il est traversé par tout ça, et qu'on voit bien qu'en effet on n'est pas là du tout dans une réponse médicale, médicamenteuse, hospitalière, comme malheureusement on peut trop souvent voir aujourd'hui. Et je crois que c'est une des clés du succès de cette série, c'est l'humanité qui s'en dégage aujourd'hui.
Oui, je pense aussi qu'elle a l'art de mettre, de créer un suspense psychique et d'inciter l'auditeur, le spectateur à essayer de comprendre lui aussi, un peu être dans la position de recevoir comme le docteur Dayan et de répondre et de voir à quel point c'est complexe mais passionnant.
Très bien, bah oui, on recommande cette série, c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle avait eu beaucoup d'effet chez les gens qui l'ont regardée. On va passer tout de suite à la chronique de David, qui est nouveau dans Bonjour Turbine, c'est la deuxième fois. Donc, ça va toujours David?
Oui, ça va, oui. Donc moi, je vais faire un petit parallèle avec mon thème. Donc, pour rester dans le thème, on parle de personnes saines et saines d'esprit. Eh bien moi, je vais vous parler de scènes de ménage. L'histoire est arrivée à mon frère il y a une quinzaine d'années. Histoire récente, certes, mais je vous livre la lettre que j'avais reçue à l'époque. « Cher David, je ne l'ai pas vraiment vu venir, la Jeanne. Affalée dans le sofa, je sirote une menthe à l'eau, tout en regardant à la télé Souris City avec le chat. Mon chat, le chat machine. Oui, c'est son nom parce que ça me fait rire. » C'est comme mon bocal qui se nomme poisson et le poisson bocal, ce qui me permet d'affirmer avec certitude que le bocal est dans le poisson. Mais revenons à la Jeanne, ma voisine, une furie jolie. Elle frappe à ma porte, rentre et me jette un sourire bizarre et annonce « Alex, je viens faire le ménage chez toi. » « Ben, j'ai rien fait. » « Eh ben oui, c'est ce que je te reproche, tu n'as rien fait. » Inquiet, je la dévisage et lis dans son regard la douce certitude des conquérantes en quête d'absolu. Jeanne a une mission et rien ne pourra l'arrêter. Mais voilà que, pris de panique par cette incursion, le chat saute se réfugier dans le bocal, enfin le poisson. C'est alors que Jeanne dégrafe son peignoir rose et le laisse glisser à ses pieds, comme le font les stripteaseuses. Déception, elle n'est pas toute nue. Mais elle porte un costume de super-héros, vert et bleu criard. Sur le t-shirt, on peut lire SM. J'apprendrai plus tard que cela signifie non pas Sa Majesté, mais bien plus tôt, super ménagère. Quand elle a retiré son peignoir, il y a eu comme un appel d'air. Aussi, les cheveux de Jeanne se redressent, ils balayent brosse, et elle ressemble à la chanteuse Désirless. Puis, elle prend la position du poirier, ce qui est très dangereux, puisqu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Elle effectue ensuite un fulgurant balayage du parquet en moins de 30 secondes. La poussière, sentant le vent de la révolte se lever, a hissé le drapeau blanc. À mesure qu'elle avance, mon linge prend peu peur, se bouleverse, se ratatouille, s'enchiffonne et se jette dans la machine. Pas le chat. Pour tout vous dire, moi aussi, je suis terrorisé et j'ai rejoint le chat dans le bocal. Maintenant, Jeanne aspire par la bouche tout ce qui passe à sa portée. Poussière, araignée et autres bestioles qui ont élu domicile chez moi. La suite du texte doit être cryptée car la commission de censure a indiqué que cela pourrait choquer les âmes sensibles, les puritains et les francs-maçons. La Jeanne a dégrafé son corsage et elle essuie la pointe de ses tétons. Je me dis, pas de doute, elle va donner la goulotte à mon chat, mais non. Cela fait aussi partie de son ménage. Elle asperge les meubles d'un jet de lait qui rend à chaque objet l'éclat du neuf. Puis, avec l'extrémité dure de ses tétons, elle essuie les plaintes et autres recoins. Enfin, elle termine son show éclaboussant avec ses pieds qui se changent en serpillères. Elle entame alors un grand nettoyage final de toute beauté avec tripaxel salto sans saleté qui rappelle la grâce de Caratarina Vitt. J'ai fini, Alex. Je fais le tour du propriétaire. Force est de constater que mon appart est flambant neuf. Du coup, moi aussi, je veux être propre comme un sous-neuf. Je saute dans ma douche et quand j'en sors dans la tenue d'Adam, Jeanne et Ève, le dos, qui ôte son habit de super ménagère et caresse le bocal où nage un poisson imaginaire. On dirait que tout a retrouvé sa virginité originelle. Mon petit Alex, tu me plais, mais tu dois savoir que je ne copule jamais dans un tas d'immondices. Pour la petite histoire, depuis, ils ont eu deux enfants, sains et saufs, c'est leur nom, et il paraît qu'ils sont tout sauf sains d'esprit.
Merci voilà. David pour ta chronique. Et ben super cool. Et Pierre va prendre ta place justement pour enchaîner avec la deuxième partie de sa chronique musicale.
Me revoilà donc pour cette deuxième partie de ma rubrique musicale. Je suis tombé sur un super article du site psychologie.com et je vais faire du coup l'opposé de la première partie. Et nous passons la majeure partie de notre vie à essayer d'être heureux. Mais étrangement, lorsque nous nous sentons tristes, nous avons parfois tendance à enfoncer le clou afin de savourer chaque instant de notre mélancolie. Qui, dans des moments de profonde tristesse, n'a jamais passé de longues heures à écouter un enchaînement de mélodies sombres? Mais pourquoi agissons-nous de la sorte? C'est ce qu'ont voulu comprendre des chercheurs irlandais en examinant nos motivations à écouter des musiques tristes quand nous n'avons pas le moral, ainsi que les effets que cela nous procure. Contrairement en fait à leur but premier de nous faire pleurer à chaudes larmes, les chansons tristes auraient tendance en fait à nous faire sentir mieux. Et les recours à des musiques tristes s'expliqueraient notamment par le besoin d'écouter des sons qui correspondent à l'humeur du moment ou qui équivoquent le souvenir d'une personne. Dans d'autres cas, c'est le message communiqué par la chanson qui est recherché. Enfin, une musique est parfois simplement sélectionnée aussi pour sa beauté. Et il y a cette question, que nous procurent ces musiques lorsque nous sommes tristes ? Elle permettrait par exemple de raviver des souvenirs et des émotions associées à un événement particulier. Lorsque les paroles sont en correspondance avec la situation que nous vivons, nous aurions la sensation en fait d'être compris et soutenus. Enfin, l'effet procuré n'est parfois qu'une distraction permettant d'échapper au silence. Il existerait une série de raisons pour lesquelles nous choisissons des musiques tristes lorsque notre humeur est morose. Parmi celles-ci, l'envie de revivre des émotions précédemment ressenties, à savoir écouter de la musique triste dans le but d'éprouver du chagrin, de la déception, de la colère, se révèle être principalement présente lorsque l'on vit une situation difficile. Une réaction courante qui n'en est pas moins déroutante et en contradiction avec notre poursuite incessante du bonheur. Fort heureusement, ces sentiments négatifs sont rarement vécus comme tels et auraient même une fonction d'autorégulation permettant de surmonter un mauvais moment. Et comme le disait le grand Bobby McFerrin, « Don't worry, be happy ». Et je vous propose du coup de vous plonger et de réfléchir à ce que vous souhaitez dans cette magnifique musique de Tom Rosenthal, « It's okay ».
Vous écoutez toujours Bonjour Turbine et grâce à Pierre qui me fait vivre un vrai ascenseur émotionnel depuis le début de l'émission parce que je suis une grosse fragile, on vient de s'écouter du coup le titre It's Okay de Tom Rosenthal et on va clore cette émission avec l'agenda de Alain.
Alors, je vais vous raconter quelques histoires pour c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est quand, puisqu'on a oublié de le dire avant.
Pardon.
Alors, dans le cadre du cabaret chanson Centre d'animation rue Haute-Bonny à Raux, le vendredi 6 mai de 19h à 20h30, je vous conseille d'aller voir les Divas Gabondes. Laissez-vous embarquer dans un voyage vocal accompagné d'un zeste d'accordéon. Des personnalités qui volent en éclats, qui se dissimulent dans un groupe et s'harmonisent sur un point. L'humanisme généreux, ce sont les divagabondes. Alors je cite, alliant l'humour aigre-doux, bonne et mauvaise humeur, un costume noir parce que le monde est grave, des jupons de dentelle de couleur parce que nos cœurs sont ainsi faits, de métal et de velours, elles se baladent sur la voie de leur chant, d'une culture à l'autre, en des langages différents. De notre siège, nous les suivons à travers les continents, dans les rues, la noirceur des bouges, dans les salons, clinquant et pourquoi pas tout près de chez soi. Alors leur chef de chœur, elle s'appelle Isabelle Gancel. À l'accordéon, il y a Jean-Michel Trottou et la mise en espace est faite par Sylvia Marzolini. Petit extrait. après ça, le retour cette année du festival Interstice, le 16e, rencontre des Inclassables, dans son format habituel, du 3 au 15 mai. Art visuel, sonore et numérique, après les années Covid qui avaient bouleversé la programmation. Quelques exemples. L'ouverture officielle, le mardi 3 mai à 19h30, et la soirée de clôture, le samedi 14 mai à 19h, avec le DJ Maruina. Depuis le 14 avril et jusqu'au 12 mai, Mani Kouagan de Paul Dincombe à l'Abbaye aux Dames. Je vous conseille la soirée nordique et interstice performance concert mix au Cargo le jeudi 5 mai à 21h. Le concert aussi performance restitution de résidence de 3W Electron Tube samedi 7 mai à 18h, les bains musées dehors. On aura aussi de la musique contemporaine avec Home Doc dans les arbres dimanche 15 mai de 14 à 17h au Jardin des Plantes. Et des expos dans divers lieux comme l'église Saint-Nicolas, l'Artothèque, l'église du Vieux Saint-Sauveur, l'église du Sépulcre, et le Centre chorégraphique national, le Dôme Les Âmes. Donc vous pouvez tout découvrir sur le site du festival que vous pourrez avoir dans les, sur les, comment dire, la page de l'émission. Ensuite, je vous conseille une exposition photo de l'association Canet Surface Sensible qui s'appelle Réel et Réal, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville jusqu'au 5 juin. Après le scriptorium de l'Hôtel de Ville, l'association Surface Sensible expose depuis quelques jours.
Le 8 avril.
Voilà, jusqu'au début juin. Des photographies et des vidéos qui, comme le titre l'indique, discordent le réel pour confiner vers l'irréel, comme le dit Lino Carter, photographe et secrétaire de l'association. Réel, magnifié, fantasmé, halluciné parfois. Donc sur la page Facebook de Surface Sensible que vous pourrez avoir aussi. Particulièrement, moi j'ai un coup de cœur dans cette exposition, c'est Benoît Le Chartier qui a eu l'idée de faire un certain nombre de clichés en mettant un verre dépoli devant l'objectif de son appareil photo. Donc il y a des monuments, des endroits qu'on reconnaît tout de suite parce qu'ils sont typiques, mais avec la déformation que donne le verre dépoli, c'est assez surprenant, c'est très beau. Il y a aussi d'autres jolies choses, et donc c'est aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Alors, pour finir cette rubrique aujourd'hui, en relation avec le thème de la santé mentale et en hommage à la défunte rubrique Le Canapé Jaune, où Annelou nous invitait à découvrir des films cultes, je vous invite à voir, revoir ou revoir trois chefs-d'œuvre du 7e art.
Merci pour ton hommage, Alain.
Mais je t'en prie, ça me paraissait le bon moment pour le faire, surtout avec ce sujet. Alors le premier film que je vous conseille de voir, alors c'est un film de 1980, c'est pas d'hier, c'est Shining de Stanley Kubrick, avec dans le rôle principal Jack Nicholson. C'est un huis clos dans un hôtel fermé l'hiver, isolé du reste du monde pendant de longs mois. C'est cauchemardesque. C'est un écrivain qui signe un contrat pour garder pendant l'hiver un hôtel avec sa femme et son fils. Et je ne veux pas vous raconter le film, mais ça fait vraiment très peur. Et d'ailleurs, je l'ai vu récemment là, sur Canal. Ils appellent ça un film d'horreur. Moi, je ne dirais pas que c'est un film d'horreur, mais c'est un film où le cerveau de Nicholson et des gens qui sont avec lui passe par des situations assez cauchemardesques. Le deuxième que je vous conseille, c'est « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». C'est un film de Milos Forman qui est de 1975, et là encore avec Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito. Pour échapper à la prison, le détenu de droit commun Randall McMurphy, Jack Nicholson, se fait interner en simulant la folie. Dès son arrivée à l'hôpital psychiatrique, il assiste au traitement thérapeutique dispensé par Miss Ratchet, l'autoritaire et tyrannique infirmière en chef dont il cherche à bouleverser les méthodes. Alors, ça date, mais ça reste quand même un film et aussi une pièce de théâtre qui est reprise régulièrement. C'est grinçant, drôle, inquiétant, donc à voir absolument pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour finir, le pire des trois films, qui est peut-être le plus grand chef-d'œuvre, c'est un autre film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Donc c'est un film de 1972 avec Malcolm McDowell. Alors Malcolm McDowell, quand on le regarde, une fois j'ai mangé dans un resto à Rome et il était à la table d'à côté, par hasard comme ça, rien que de le voir, son regard, ça vous fait peur, mais vous avez envie de vous terrer sous la table tellement il a une tête de, on dirait de fou, entre guillemets. Il est inquiétant. Alors vous imaginez dans un film où il a un rôle qui est encore plus inquiétant, ça donne quelque chose d'assez terrible. Il y a aussi Adrienne Corry, Anthony Burgess, réunis au Corava Milk Bar, Alex et sa bande s'abreuvent de drogue avant de partir pour une virée ultra-violente. Après avoir battu à mort un clocharive, ils pénètrent dans une maison, violent la femme et blessent gravement le mari. C'est glaçant et quelque part, ça a une résonance avec l'actualité. C'est un film, enfin c'est une histoire, c'est un roman à l'origine, où il y a tout un vocabulaire qui a un mélange d'anglais et de russe. Donc aujourd'hui, ça nous parle. Surtout quand on entend des exactions que certains soldats ont l'autorisation de faire pour asseoir la supériorité de leur armée. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de voir comment un comportement, à un moment donné, peut être déviant et inacceptable par la société. Puis à un autre moment, parce que la société a changé, que les dirigeants ont changé, le comportement déviant devient le comportement banal. Et donc, où on a l'autorisation, là, on peut étaler sa folie, ça marche très bien. Et puis, bah, ça finit très mal pour lui. C'est glaçant à voir quand il a les yeux écarquillés pendant une dizaine de minutes où on l'oblige à regarder des scènes d'ultra-violence sur la musique de la 9e de Beethoven. Mais c'est d'une beauté extraordinaire. Donc voilà, c'était l'hommage au canapé jaune.
Eh bien super, merci beaucoup. Et pour poursuivre cet hommage, d'ailleurs, moi je recommande un film aussi, tant qu'on y est, qui est super bien dans le thème. C'est Une drôle d'histoire en français. En anglais, c'est It's a Kind of Funny Story. Du coup, c'est un film de Anna Bonham et Ryan Fleck. Et c'est super intéressant. C'est un film sur un adolescent qui est suicidaire. Et en fait, il se retrouve à faire un petit séjour à l'hôpital pendant 5 jours. Et il arrive au début en se disant qu'en fait, non, tout va bien et que les autres sont fous. Au final, au bout de quelques jours, il se rend compte qu'en fait, eh ben non, les autres, ils sont normaux. Et après, à la fin, bah, il se rend compte qu'en fait, les gens sont ni normaux ni fous, que c'est plus complexe que ça. Et c'est une très bonne suite. Et c'est un film qui est très chouette, drôle et touchant, et que je recommande aussi vivement. Voilà. Et du coup, nos invités, est-ce qu'ils ont vu ces films? Est-ce qu'ils ont des recommandations de films à faire, vu qu'il nous reste encore 3 minutes pour clore cette émission? 2.
Alors oui, bien sûr, j'ai vu ces films-là, c'est des grands, grands chefs-d'œuvre. Après, je ne suis pas sûr qu'il soit question de la folie au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire je ferai attention à ne pas non plus stigmatiser, par exemple, les personnes schizophrènes qu'on pourrait facilement assimiler à ces grands fous que Kubrick, par exemple, a su mettre en scène de manière magnifique. Par contre, ça me terrifie sur l'idée que l'humanité est en capacité de créer des êtres comme ça. Et je crois que l'actualité du moment nous montre bien que, est-ce qu'il s'agit de folie? Je ne suis pas sûr, mais qu'en tout cas, voilà, il y a des extrêmes là que notre propre humanité est en capacité de créer. Voilà ce que ça m'inspire. Merci.
Et vous, Florence?
Alors oui, il y a des films sur la folie, mais je dirais que bien sûr c'est intéressant, mais c'est l'extrême, c'est la difficulté psychique ou l'explosion intérieure poussée à son maximum, et évidemment c'est aussi une réalité, mais on est tous plutôt des fous ordinaires avec nos failles secrètes, tout un tas de choses qu'on dissimule et dont on a du mal à se dépêtrer. Voilà, moi c'est ça plutôt qui m'intéresse, même si j'apprécie hein, ses œuvres, c'est pas la question. Et en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec vous tous, et j'ai plaisir aussi à parler de la complexité, de la difficulté, mais aussi de l'intérêt de notre métier, et je crois que c'était une belle occasion, et moi je vous remercie de nous avoir donné cette plage. Voilà.
Oui, merci, c'était un moment très, très intéressant.
Eh bien, merci beaucoup à vous, c'était très intéressant pour nous aussi. Et du coup, on va clore cette émission, donc toutes les informations qui ont été données, vous pourrez les retrouver en description de ce podcast. Et on remercie d'ailleurs tous nos chroniqueurs, du coup Alain, Pierre, Raphaël, David, Thomas à la régie, et aussi Florence Daven et Pascal Crété qui étaient nos invités aujourd'hui. À la prochaine.
Salut Annalou.
Salut.